C'est aujourd'hui que sera entérinée la disparition du Conseil français du culte musulman, remplacé par le FORIF, le Forum de l'Islam de France, qui devient donc le nouvel interlocuteur officiel des pouvoirs publics. Ce FORIF est une création de l'Élysée. Bonjour Franck Frégosi.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des sciences politiques, directeur de recherche au CNRS et membre du GSRL, c'est-à-dire le groupe Société, Religion, Laïcité. Pourquoi y avait-il urgence à remplacer le CFCM ?
Bien écoutez, parce que le CFCM lui-même ne parvenait plus depuis plusieurs années à fonctionner. Il était devenu le théâtre finalement de rivalité entre les grandes fédérations nationales dont certaines sont liées à des États étrangers, l'Algérie, le Maroc, la Turquie, mais aussi à d'autres fédérations liées à des courants transnationaux. Et chaque fois que des décisions devaient être prises, bien, il y avait des agendas qui se heurtaient, des égos aussi parfois qui s'exprimaient. Par exemple, sur la question de la nomination des aumôniers, régulièrement des heurts se sont produits. Et encore il y a 2 ans de cela, pour la nomination de l'aumônier national, bien il y a eu une rupture, un schisme à l'intérieur du CFCM. Autrement dit, cette institution qui avait quand même été consacrée, je dirais, par les pouvoirs publics, vous l'avez rappelé, par Nicolas Sarkozy...
En 2003.
N'est pas parvenu finalement à laisser une empreinte durable, d'abord dans l'esprit des musulmans, qui sont a priori les principaux concernés, mais aussi dans ses relations avec les pouvoirs publics, ce qui a amené le ministre de l'Intérieur, en tout cas, à évoquer l'idée qu'il fallait peut-être changer de référentiel, si je puis dire.
Quand on dit que le CFCM ne représentait pas toutes les composantes des musulmans de France, quelle partie des musulmans vivant en France a été délaissée par le CFCM ?
Écoutez, déjà, vous l'avez rappelé, la moitié des mosquées de France n'ont pas participé aux élections du CERCEM et du CFCM. Donc déjà, la moitié des locules français ne se reconnaissent pas dans une instance qui est pourtant censée parler entre guillemets en leur nom. S'agissant de la représentation des composantes, par exemple, les jeunes générations ont du mal à se reconnaître avec une instance qui, pour eux, apparaît davantage comme étant le porte-parole des pouvoirs publics, beaucoup plus que leur propre porte-parole. Voilà un exemple important. Et de manière générale, il y a une composante qui a souvent été écartée, ce sont les représentants de ce que j'appelle moi l'islam des territoires. Donc ces recteurs de mosquées, ces imams de mosquées dans les départements, qui n'ont jamais eu voix au chapitre, si je puis dire, parce que très vite, cette instance est devenue une sorte de chasse gardée des grandes fédérations nationales.
Alors on comprend que c'est compliqué, que ça dysfonctionne. Ce qu'on voudrait savoir aussi, c'est depuis combien de temps est-ce qu'on essaie d'organiser la religion musulmane en France ? On parle beaucoup là du CFCM, du Conseil français du culte musulman, oui. Mais avant ce CFCM, avant 2003, est-ce qu'on a déjà essayé de mettre en place une autre instance représentative de la religion musulmane ?
Oui, écoutez, il y a dans les années 88, Pierre Joxe, à l'époque ministre de l'Intérieur, avait mis en place un CORIF, un conseil de réflexion sur l'islam en France. Donc déjà, l'idée de collégialité commençait à poindre avec l'idée que le ministre avait besoin d'avoir des interlocuteurs musulmans, mais en respectant la collégialité. Ensuite, cette initiative, pour des raisons aussi de l'alternance politique, a été évacuée. Il y a eu ensuite un dialogue quasiment spécifique qui a été mené entre le ministère de l'Intérieur et la seule grande mosquée de Paris, qui aboutit à la charte du culte musulman en 1995. Charte qui a été proposée aux différentes composantes, mais qui l'ont en grande majorité refusée. Puis il y a eu l'initiative fondatrice de Jean-Pierre Chevènement de la consultation, où là, il s'agit de se mettre d'accord sur un texte de base qui est proposé à différentes fédérations, mais également à des mosquées régionales, et à des personnalités indépendantes. C'est ce qui a donné le CFCM, mais dans la première version, il faut se rappeler que le CFCM était censé être l'émanation d'élections locales. Or, la réalité, c'est que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, va décider qui va présider le CFCM pendant 4 années. En l'occurrence, la Grande Mosquée de Paris, ce qui va biaiser totalement le système. Donc, autrement dit, on vient de loin. Mais je pense que cette formule a fait son temps, effectivement.
Mais en fait, c'est une nécessité. C'est nécessaire d'avoir ce type d'organe pour pouvoir discuter avec la religion musulmane ou on pourrait faire sans ?
Alors écoutez, on peut toujours faire sans. Simplement, l'État a besoin, sur un certain nombre de dossiers, d'avoir une interface. Toute la question, c'est pas de l'idée qu'il puisse y avoir une instance, pourquoi pas, mais comment est-elle élaborée ?
Oui, bien sûr.
Qu'est-elle censée refléter ? Je prends un exemple, j'évoquais le cas des aumôniers. Les aumôniers, dans les services publics, sont nommés par l'administration. Donc il est tout à fait normal que l'État ait un interlocuteur en la matière. C'est ce qui se passe pour les autres cultes. Chaque culte a une structure qui est un interlocuteur de l'État. Après, la difficulté, c'est de pouvoir coller à la réalité de ce qu'est l'islam aujourd'hui en France et de réalités qui sont avant tout des réalités territoriales.
Et ça, dans tous les pays où il y a des communautés musulmanes, il y a nécessairement ce genre d'organes représentatifs.
Il y a en tout cas des instances où il y a des forums de dialogue. C'est pour ça que dans le cas français, on s'est manifestement inspiré de ce qui a été fait en Allemagne, notamment en 2006, où a été mis en place une Deutsche Islam Conference, une conférence sur l'islam en Allemagne, où l'administration fédérale a commencé par mettre en place un groupe de travail de 30 personnes, moitié administration, moitié responsable musulman, pour essayer de déblayer un petit peu les dossiers majeurs. Et ensuite, cela a débouché à toute une série de consultations. Mais en Allemagne, le système est un peu différent du nôtre, puisque ce sont essentiellement les Länder qui ont des compétences, notamment en matière, par exemple, d'éducation religieuse. Donc je pense qu'on s'est inspiré du système allemand, en ce sens que ce que semble faire le gouvernement aujourd'hui, c'est beaucoup moins être prisonnier d'une logique verticale que s'élargir un peu plus et ouvrir le champ des interlocuteurs en incluant dans la discussion des acteurs de terrain.
On va reparler de cette horizontalité souhaitée du Forif, cette nouvelle instance. Juste pour terminer sur le Conseil français du culte musulman, on lui a aussi reproché de donner beaucoup trop de place à l'influence de l'Algérie, du Maroc ou de la Turquie. Mais de quelle influence parle-t-on précisément sur les musulmans de France ?
L'influence, elle est essentiellement par le fait que ces fédérations, elles-mêmes, bénéficient de l'envoi régulier de ce qu'on appelle des fonctions détachées par ces États, donc d'imams qui sont envoyés dans les mosquées pour 3 à 4 années, qui sont donc des fonctionnaires étrangers qui interviennent en France. L'autre problème étant que dans certaines situations, certaines mosquées qui ont été construites en France, au bout de certaines années, deviennent la propriété de ces États étrangers. On a le cas du Maroc, mais on a le cas aussi de la Turquie. Et c'est vrai que c'est fait partie des débats qui régulièrement reviennent en disant finalement, les musulmans prient dans des salles de prière, dont certaines sont devenues au cours du temps, les propriétés d'États étrangers, et manifestement, c'est un des domaines dans lequel le ministère souhaite dorénavant intervenir.
Bah oui, d'ailleurs, la France qui veut mettre fin à ces imams dits détachés en provenance des pays étrangers, cette fin, c'est prévu pour 2024. Ce n'est pourtant pas une idée neuve. Pourquoi est-ce que ça a mis tant de temps à venir?
Écoutez, le problème, c'est que la question avait déjà été posée dans les années 2000. La difficulté, c'est que toutes ces fédérations, notamment celles liées à des États étrangers, ont du mal à imaginer pouvoir se priver, j'allais dire, de la manne étrangère. Et le fait qu'ils ont des relations privilégiées avec certains États qui veulent garder en contrôle sur la formation des imams qu'ils détachent en France, comme si effectivement, forcément, les musulmans de France faisaient partie d'une vaste diaspora et que les États voulaient les contrôler. Donc c'est un obstacle évident qui s'est manifesté à plusieurs reprises. Puis aussi la volonté parfois de manque de coopération entre les organisations musulmanes elles-mêmes. Moi-même, j'ai travaillé dans un groupe de travail, on s'est rendu compte qu'on avait fait différentes propositions pour une formation en France, et très vite sont réapparues des querelles, entre guillemets, de chapelles, si je puis dire, chacun voulant garder effectivement sa propre manière d'enseigner l'islam plutôt qu'elle telle autre. Donc véritablement, on est confronté à ces genres de situations. J'espère que le Forif va avancer, même si je reste extrêmement prudent, parce que nous n'en avons pas encore fini avec l'influence de ces fédérations nationales.
Alors, entrons justement dans le détail de ce Forif, de ce forum de l'islam de France qui va remplacer le CFCM. Est-ce que le Forif présente a priori des bases plus solides ? Est-ce qu'il devrait mieux fonctionner ? Vous parliez d'une meilleure horizontalité. Est-ce que ça va suffire à faire que ça marche mieux ?
Alors, je ne sais pas si ça va suffire, mais en tout cas, on va entendre au sein du Forif des voix qu'on n'était pas habitué à entendre auparavant. Des personnes qui avaient été plus ou moins écartées des discussions, et surtout des personnes qui non seulement parlent, mais on réalisait des choses concrètes sur le terrain.
C'est-à-dire...
Or, c'est ce qui manquait. Mais par exemple, je prends le cas de la Grande Mosquée de Lyon, par exemple. Mm-hmm. Kamal Kaptan, depuis plusieurs années, s'est retiré du district du CFCM. Et en 2018, il a créé à la fois un conseil des mosquées du Rhône, un conseil théologique des imams du Rhône. Autrement dit, à l'échelon local, il a réussi à faire ce qu'il a été incapable de faire, le conseil français du culte musulman. Dans d'autres régions, il y a eu des conseils d'imams qui ont été constitués, où, toutes sensibilités confondues, des imams et des aumôniers ont essayé de travailler ensemble en fonction de leurs compétences, aussi des besoins que sont ceux des fidèles.
Vous parlez de Kamel Kaptan, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon. Il demande ce matin à ce que les membres de ce forum de l'islam de France ne puissent pas être désignés, mais élus dans leur département. Prévu ?
Écoutez, pour l'instant, on n'en est pas encore là. C'est pour ça que je pense qu'on est dans une phase transitoire aujourd'hui. Il y a des bases qui ont été posées, mais moi, je plaide depuis plusieurs années pour l'idée que véritablement, pour qu'on puisse rapprocher cette représentation de l'islam des fidèles, il faudrait quand même un jour en arriver à donner la parole aux fidèles à partir des lieux de culte. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc, je pense que Kamal Kaptan anticipe peut-être, mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle, si l'on se tient à ce que le Forif a devant lui, la question de l'émergence d'une organisation représentative n'est pas encore à l'ordre du jour, mais cette idée d'une élection me paraît tout à fait intéressante à creuser.
Oui, parce que pour l'instant, on comprend que le Forif, ça va être une assemblée d'une centaine de personnalités choisies par l'État. Dans un État laïque comme le nôtre, ça paraît assez improbable quand même.
Bon, disons que à la base, on a demandé aux préfectures de faire monter des noms de personnes qui avaient participé aux assises territoriales de l'islam depuis 2021. Mmh. Donc des personnes, effectivement, ça peut être aussi bien des recteurs de mosquées, des imams, que des présidents ou des présidentes d'associations. Ces listes sont parvenues au ministère de l'Intérieur, qui ensuite a fait sa propre sélection. Ce que vous imaginez, quand même, il n'y a pas eu tous les noms n'ont pas été retenus. Alors la question est de savoir, c'est quel était le critère qui a été retenu. Semble-t-il la volonté quand même de mettre à distance toute personne liée à des fédérations nationales, qu'elles soient liées à un État étranger ou à un courant religieux transnational, mais aussi surtout la volonté de tenter une expérience, de donner la parole finalement à des acteurs de terrain qu'on ne peut pas suspecter d'être affiliés à telle ou telle organisation, mais qui finalement ont fait leur preuve. Donc encore une fois, c'est vraiment une phase transitoire. Je dirais pas que c'est appelé à remplacer le CFCM. C'est le nouveau canal d'expression et de discussion entre les pouvoirs publics et les acteurs musulmans.
Dans cette phase transitoire, est-ce que toutes les fédérations musulmanes, la fédération algérienne, la fédération marocaine, turque et toutes les autres, est-ce qu'elles sont favorables à ce forif? Est-ce qu'il va falloir l'imposer? Parce que si on y va au forceps, ben le pari, il est raté.
Ben écoutez, a priori, à ce jour, si j'en suis les décisions du ministre, normalement, les fédérations turques ne participent pas au forif, voilà. À ce jour. Puisque je vous rappelle qu'elles n'avaient pas ratifié la charte, puis ensuite elles l'ont ratifié, elles sont en dehors. Donc déjà, il y a un problème, c'est que une partie de la composante de l'islam en France, notamment dans le Grand Est, n'est pas partie prenante à ce dispositif. Les autres fédérations, moi, ce que j'observe, c'est que, à ma connaissance, les responsables nationaux, sauf pour deux, ont plutôt été écartés de ces dispositifs. Il y a, à ma connaissance, pas de personnalité liée, par exemple, à l'Union des mosquées de France que préside Mohamed Moussaoui. Mmh. Il n'y a pas plus de personnalité qui est directement liée à Musulmans de France, l'autre fédération. Par contre, j'ai cru comprendre que le grand recteur de la mosquée de Paris est présent au Forif, ainsi que M. Anouar Kbibesh du RMF. Mmh. Donc, je me pose
Donc,
la question...
Donc, ça va créer des tensions, tout ça?
Ça peut créer des tensions, même si dans le cas de la Grande Mosquée de Paris, il y a une réponse, c'est la Grande Mosquée de Paris est d'abord un lieu de culte, avant que d'être la représentante d'un État étranger.
Franck Frégosi, depuis tout à l'heure, on parle de l'influence de l'exécutif dans cette nouvelle entité qui sera l'intermédiaire entre les musulmans de France et l'exécutif. On parle du ministre de l'Intérieur qui est à la manœuvre aussi. Sauf que l'exécutif est censé ne pas trop s'occuper de l'organisation interne des religieux au nom de la séparation de l'Église et de l'État. Vous, le spécialiste de la laïcité et des religions, comment est-ce qu'on résout cette équation en France ?
Ah mais écoutez, en tout cas, on l'énonce pas comme tel. On constate que dans la pratique, s'agissant notamment de l'islam et spécifiquement de l'islam, la religion demeure toujours une sacrée affaire d'État. Autrement dit, là, on est dans la gestion à la fois de notre héritage historique, le passé colonial, mais aussi le fait que, s'agissant de l'islam, il y a des enjeux sécuritaires qui sont systématiquement mis en avant pour justifier l'intervention ou les précautions que prennent les pouvoirs publics à l'égard de ce culte. Je pense que là, il y a peut-être une révolution mentale à accomplir, à savoir à la fois prendre en considération la réalité que constituent des enjeux sécuritaires comme le djihadisme, le terrorisme, ça c'est une réalité, sans pour autant hypothéquer finalement le futur des musulmans de France systématiquement en mettant en avant la dimension sécuritaire. Mais elle a son importance. Et en même temps, vous l'avez rappelé, la laïcité implique la liberté d'organisation des cultes. Peut-être faudrait-il un jour ou l'autre se poser la question de est-ce que les musulmans, et ils le sont tout à fait capables de prendre en main leur responsabilité et leur organisation dès lors que celle-ci n'entre pas en contradiction avec l'ordre public.
Alors on va pousser le bouchon avec vous, hein, que ce soit pour les signes religieux, que ce soit pour les influences étrangères, pour la question du financement. À chaque fois, on a le sentiment que ce sont des réflexions ou des lois pour la pratique du culte musulman en France. Iriez-vous jusqu'à dire qu'il y a un problème en France avec cette religion en particulier?
Non, je ne pense pas qu'il y ait un problème particulier. Un certain nombre de questions qui ont été posées sur l'islam, la question de l'abattage rituel, la question, par exemple, de l'inhumation dans les cimetières, sont des questions qui existent aussi dans le cadre du judaïsme. Et cela ne pose aucune difficulté.
Notez que ça fait moins d'écho.
Ont moins d'écho en tout cas, mais je veux dire, et d'ailleurs souvent pour répondre à ces questions s'agissant de l'islam, on s'est inspiré de ce qui a été fait en direction de la communauté juive. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté majeure.
Mais on sent bien quand même que ça crispe, par exemple, sur la formation des imams. Est-ce que ça doit d'ailleurs être une mission du futur forif?
Je pense qu'ils se sont saisis de cette question, puisqu'il y a un groupe de travail qui est consacré. Je rajouterai simplement un commentaire. La seule particularité peut-être, c'est que l'islam est devenu finalement, et en France depuis des décennies, le terrain aussi d'affrontements, de rivalités régionales entre certains États qui se servent finalement de l'islam en France pour régler des comptes. Donc autrement dit, il y a aussi une dimension transnationale qui s'impose aussi dans cette gouvernance de l'islam et qui explique en partie aussi le retard qui a été notamment accumulé et les blocages auxquels on a assisté ces derniers temps.
Mais Franck Prégozy, quel islam au final est-ce qu'on est en train d'essayer de dessiner, de construire, de bâtir aujourd'hui en France ?
Ben, j'ose espérer qu'on essaye de bâtir un islam qui corresponde à ce que vivent les musulmans au quotidien. C'est-à-dire un islam qui est extrêmement pragmatique, qui finalement les musulmans sont des citoyens comme les autres et qui aspirent à pouvoir pratiquer de façon tout à fait décente leur religion sans être les otages, sans être pris en otage par un certain nombre de fédérations étrangères, mais aussi sans être quelque part systématiquement sommés d'avoir à justifier leur pleine loyauté envers la République. Je pense qu'ils l'ont prouvé. Or, j'ose espérer que cette vision-là qui va l'emporter, plutôt qu'une vision qui tendrait à montrer que finalement ce qu'on voudrait, c'est un islam vassalisé, un islam domestiqué, ce qui risque effectivement de ne pas être aussi simple à imaginer. On peut l'imaginer au plan théorique, mais la mettre en pratique, c'est plus compliqué.
Et une partie des Français, en tout cas ceux qui ont l'intention de voter pour Éric Zemmour, perçoivent l'islam de France comme une menace, sans faire de différence d'ailleurs entre islam et islamisme. Vous, le spécialiste, comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
Écoutez, là on est arrivé par le fait que chaque fois que des phénomènes dramatiques se produisent dans notre pays, en lien ou non avec des individus se réclamant de l'islam, très vite l'amalgame est fait avec tous les autres musulmans dont certains sont eux-mêmes victimes de ces attentats. Donc je crois que là il y a vraiment un travail à faire de réexaminer, de faire la distinction entre ce qu'est l'expression religieuse majoritaire, de ce que sont finalement des expressions radicalisées, politique essentiellement. D'ailleurs, ces acteurs sont totalement étrangers à l'univers des mosquées. Pour la plupart d'entre eux, ne sont pas impliqués dans des communautés. Rares sont ceux qui sont passés par les mosquées. Dès lors que c'est su, il faut effectivement que ces mosquées soient signalées. Mais pour autant, il ne faut pas, peut-être rendre responsables, comme le fait M. Zemmour et d'autres, les musulmans de France, des actes totalement délictueux qui sont commis par certains de leurs coreligionnaires, mais pour des enjeux et selon des motivations qui n'ont rien à voir avec le devenir de l'islam en France.
Mais je rebondis quand même sur une question de timing, à quelques semaines du premier tour de la présidentielle, à 9 semaines du premier tour de la présidentielle, est-ce que c'était le meilleur moment pour changer les instances représentatives de cette religion musulmane ?
C'est effectivement l'une des questions qu'on peut se poser. Il y a une coïncidence qui me laisse dubitative parce que, d'une certaine manière, comment vont travailler ces hommes et ces femmes dans l'euphorie ? Est-ce qu'ils ne vont pas subir quelque part une pression pour aboutir à une solution ? Or, vitesse et précipitation ne vont pas on risque de déboucher sur des solutions qui ne sont pas forcément applicables. Deuxièmement, il peut y avoir une alternance politique. Qui nous garantit que ce mode de dialogue original va être maintenu ? Donc, il y a vraiment, c'est pas forcément le meilleur des moments possibles. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher de rêver, mais pour l'heure, je crois qu'effectivement l'agenda plaide plutôt pour une certaine prudence en la matière.
Et quand on entend les opposants à droite d'Emmanuel Macron, le président sortant, très probablement candidat à sa succession, c'est un pari très risqué pour le président.
C'est un pari risqué, mais oui, si ça marche pas, mais c'est aussi, vous savez, on est le chef de l'État veut absolument montrer qu'il a laissé son empreinte, que lui aurait réussi ou là où les autres auraient échoué. Bon, sauf que l'histoire montre que tous ses prédécesseurs n'ont pas forcément échoué, mais simplement que les acteurs qui ont été impliqués dans ce processus n'étaient pas forcément les mieux. Donc je pense qu'il est tout à fait légitime que le chef de l'État ait laissé son empreinte. Je ne suis pas certain pour autant que le temps plaide en faveur véritablement de résultats concrets. Mais peut-être que le ministère a une autre option, qui est tout simplement d'avancer au cas par cas, de régler un problème à la fois, sans se lier les mains avec une quelconque organisation de l'islam en France pyramidale.
Eh bien, merci Franck Prégozy,
politiste. Merci pour la clarté.
Oui, directeur de recherche au CNRS et membre du groupe Société, Religion, Laïcité. Merci de votre éclairage et bonne journée.